du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Climate change is a global problem.
Le changement climatique est un problème global. Et nous ne pourrons le résoudre que si nous avançons ensemble. Pour ce faire, le monde doit suivre le chemin d'une transition profonde, mais juste. Une transition qui dépend de la manière dont nous pensons, dont nous nous déplaçons, dont nous consommons, la manière dont nous gagnons nos vies ou le mode de vie que nous choisissons. Sans un succès à Katowice, il n'y aura pas de succès de l'accord de Paris.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est avec ces propos que Michel Kurtyka, le vice-ministre polonais de l'énergie, a ouvert la 24e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP24, qu'il préside pendant 2 semaines. Si la présidence polonaise de cette conférence n'a pas brillé par son enthousiasme à créer de l'ambition dans les négociations, elle a marqué un point en mettant sur la table la notion de transition juste. Une préoccupation pour les Gilets jaunes en France, mais aussi pour ce pays dont 80% de l'électricité provient toujours du charbon. Ces mines, qui emploient encore 100 000 personnes, sont concentrées en Silésie, dans le sud du pays. C'est là, sans doute pour marquer les esprits, que le gouvernement polonais a décidé d'accueillir les 22 000 participants venus de 195 pays pour participer à cette conférence. Bienvenue à Katowice, sur le lieu même d'une ancienne mine, tout un symbole, pour discuter de la lutte contre les changements climatiques.
Jastrzębska Spółka Węglowa. Wydobywamy to, co najlepsze.
PGE. Zapewniamy energię.
Ah oui, une conférence tout naturellement sponsorisée par PGE, le premier énergéticien polonais dont les centrales électriques figurent parmi les plus polluantes d'Europe, et JSW, l'un des principaux groupes charbonniers de Pologne.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Dès l'ouverture de la COP24, Andrzej Duda, le président polonais, a insisté sur l'importance du consensus social comme condition de la réussite des politiques environnementales. Il a appelé les chefs d'État et de gouvernement à signer la déclaration de Silésie pour la solidarité et la transition juste. Une cinquantaine l'ont d'ailleurs fait, mais pour Benjamin Denis, conseiller en charge des questions climat et énergie à la Confédération européenne des syndicats, il est important de rappeler d'où vient cette notion de transition juste.
La transition juste, avant d'être réappropriée par la présidence polonaise, ce sont les organisations syndicales qui ont forgé le concept, qui ont bataillé ferme pour l'inscrire à l'agenda des politiques climatiques au niveau international, au sein de l'Organisation internationale du travail, dans le texte de l'accord de Paris, dans les législations européennes et dans toute une série de législations nationales. Pourquoi a-t-on estimé important de porter cette question de la transition juste au fait de l'agenda politique de la COP24, c'est précisément parce qu'on a dans le préambule de l'accord de Paris une référence à la transition juste. Le texte dit à peu près ceci: les États doivent prendre en considération les impératifs de la transition juste et du travail décent dans leur politique climatique domestique. Alors certains pourraient considérer que c'est là un engagement purement déclaratoire. Nous, on a souhaité voir dans ce préambule le socle normatif, l'ensemble des principes qui doivent orienter l'action climatique au niveau national dans les années à venir. Si vous regardez le préambule de l'accord de Paris, il est extrêmement puissant et fait référence à toute une série de principes que nous considérons comme absolument essentiels dans les politiques climatiques et dans la société de manière générale. L'égalité homme-femme, les droits de l'homme, les droits des peuples indigènes, etc. Donc pour nous, avoir des concepts comme la transition juste et le travail décent dans le préambule de l'accord de Paris, ça signifie que les pays signataires de l'accord de Paris se sont engagés politiquement à baser leur politique climatique sur ces notions. Maintenant, pour nous, il faut concrétiser ça. Alors, la concrétisation, elle se fait progressivement. Et on a voulu prendre parti ou utiliser l'opportunité d'une COP ici à Katowice, au cœur du principal bassin charbonnier européen, pour dire voilà, la décarbonation de l'économie, elle est essentielle, elle est importante, mais les coûts et les bénéfices de cette transition, de cette décarbonation, ils sont répartis de manière inégale selon les régions, selon les pays et selon les classes sociales.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par décarboner l'économie? Ça veut dire quoi?
Décarboner l'économie, bon, deux rapports sont importants à consulter. Il y a un rapport qui est publié chaque année par l'Agence internationale de l'énergie et il y a un chiffre qui me frappe toujours, c'est la part des besoins énergétiques mondiaux qui sont fournis par les énergies fossiles. Alors que ça fait 30 ans que l'on parle de politique climatique, on en est toujours à 80% de nos besoins énergétiques mondiaux qui sont couverts par les énergies fossiles, à peu près. Donc ça, c'est le point de départ. On sait où on est. Vers quoi va-t-on aller ? Là, on consulte d'autres rapports, ceux du GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'étude du climat. Si vous regardez quelles sont les trajectoires d'émissions qui correspondent aux objectifs de température fixés par l'accord de Paris, eh bien vous voyez qu'on doit arriver à zéro net émission, quelque part entre 2050 et 2070.
Alors ce carbone dans l'économie, on le trouve où ?
On le trouve partout. C'est bien ça le problème, c'est que contrairement à d'autres problèmes dits environnementaux qui résultaient d'une technologie ponctuelle qui dysfonctionne, où on pouvait simplement se contenter, entre guillemets, de trouver un substitut. Ici, c'est bien le fonctionnement quotidien, routinier de nos sociétés, de notre économie qu'il faut changer. C'est nos manières de nous mouvoir dans l'espace, c'est la manière dont on chauffe les bâtiments, c'est la manière dont on organise les process de production industrielle, c'est notre agriculture, ce sont nos déchets. Donc ce sont vraiment tous les secteurs de l'économie qui doivent changer, et en plus ils doivent changer rapidement et globalement.
Alors ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faut décarboner l'économie. On voit bien que c'est complexe, et notamment parce qu'il y a des enjeux sociaux très forts, ce qui fait que ça freine évidemment les décideurs politiques. Alors tout d'abord, en termes d'emploi, est-ce que vous avez des estimations au niveau européen ?
On commence toujours par dire qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Et c'est ce qu'ont bien montré une série de rapports, notamment le rapport Stern il y a quelques années, c'est que les éventuels coûts de la décarbonation de l'économie sont sans commune mesure avec les coûts du statu quo.
Coût de l'inaction est plus cher que le coût de l'action.
Est plus cher que le coût de l'action, c'est une évidence absolue pour tous les gens un peu sérieux maintenant. Alors en termes d'emploi, d'abord commencer par rappeler qu'il y a un énorme potentiel de création d'emplois aussi dans la décarbonation de l'économie. Le Bureau international du travail a récemment publié une étude qui montre que ce sont globalement 18 millions d'emplois qui peuvent être créés d'ici à 2030 dans les secteurs énergétiques. 2 millions en Europe quand même. Donc là, il y a un gisement d'emplois qui doit être exploité de notre point de vue. Cela étant, si on veut faire une espèce de cartographie de l'impact emploi de la décarbonation, on a certes des secteurs qui vont gagner, les énergies renouvelables par exemple, la construction est un autre exemple via la rénovation thermique des bâtiments, on pourrait parler également des transports publics. On a de l'autre côté du spectre une série de secteurs qui vont être impactés négativement, secteur par exemple de l'extraction du charbon, la production d'électricité carbonée va elle aussi, devrait aussi fortement décliner dans les années qui viennent. Et au milieu, on a toute une série de secteurs qui vont devoir se transformer, changer de technologie, changer de modèle économique. Les travailleurs, par conséquent, ne vont pas nécessairement être impactés par des pertes d'emplois massives, mais plutôt par une nécessité de transformer leur cœur de métier.
Parmi ceux qui vont disparaître massivement dans l'exploitation et l'extraction des énergies fossiles, est-ce qu'on a là aussi des chiffres ?
Alors on a des chiffres pour l'industrie du charbon. La Commission européenne a publié une large étude là-dessus il y a quelques mois. On a un emploi direct, encore 185 000 mineurs en Europe. On a un peu plus de 50 000 travailleurs qui travaillent dans des centrales électriques thermiques au charbon. Mais vient se greffer là-dessus les emplois indirects qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier. Là, en tout et pour tout, pour avoir un ordre de grandeur, on est à peu près entre 400 et 500 000 emplois liés au charbon en Europe. Alors c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Je veux dire, en termes relatifs, c'est une portion relativement limitée du marché du travail. Le problème est que ces différentes activités, et en particulier l'extraction minière, sont concentrées dans certaines régions. Si vous regardez la Pologne à elle seule accueille, si je puis dire, 100 000 de ces 185 000 mineurs européens, et 80 000 de ces 100 000 mineurs polonais se trouvent ici en Silésie. Donc vous imaginez un peu l'impact social que pourrait avoir une décarbonation rapide de l'économie polonaise sur l'emploi local dans une région comme celle de Katowice et de Silésie.
Mais donc, comment est-ce que vous, en tant que Confédération européenne des syndicats, vous anticipez ces pertes d'emplois ?
Alors il y a des tas de choses qui peuvent être faites. Donc ce que nous on fait au niveau européen, on essaye d'articuler nos demandes autour finalement de trois exigences. La première, c'est une exigence de planification. pour anticiper le changement, il faut savoir vers quoi on va, vers quel type d'économie on se dirige. L'Union européenne vient d'adopter un règlement qui s'appelle le règlement pour la gouvernance de l'Union pour l'énergie, qui impose notamment aux États membres de préparer des plans nationaux climat-énergie. Ce règlement impose aussi aux États membres de développer des stratégies de développement à plus long terme, ici à 2050. La deuxième demande qu'on a formulée, c'est une demande de participation, c'est une exigence de participation. On invite les États membres à consulter largement la société et en particulier les partenaires sociaux pour tout ce qui concerne le marché du travail.
Et le troisième volet ?
Et le troisième, c'est évidemment le financement. Il faut à la fois activer les instruments de diversification économique, les instruments qui permettent une réindustrialisation durable et bas carbone des régions potentiellement impactées par la transition. On ne peut pas demander à des travailleurs d'accepter avec enthousiasme la décarbonation, la fermeture de leurs entreprises, de leurs mines, s'il n'y a pas dans la même région des activités économiques qui proposent des emplois qui correspondent peu ou prou à leur profil de compétences.
Après, en Europe, tout cela se passe dans un contexte de tension sociale. On a vu récemment en France la révolte des Gilets jaunes qui, à cause de la...
En Belgique.
Et en Belgique, oui, depuis peu, qui, à cause de la hausse des taxes sur le carburant, sont descendus dans la rue. C'est un phénomène que l'on pourrait voir croître au niveau européen.
Absolument. Quand je parlais de la dimension sociale de la décarbonation, et là, pour contexte, une situation sociale extrêmement tendue. On sait que depuis, à tout le moins 2008, au sein de l'Union européenne, suite à la crise financière, on a mis en place une série de politiques d'austérité qui ont eu des effets extrêmement concrets sur les salaires. Dans beaucoup de pays, les salaires, en tout cas pour une bonne partie de la population, ont soit stagné, soit régressé. On a vu également des attaques contre la liberté de négociation collective, c'est-à-dire la liberté qui est laissée aux partenaires sociaux de négocier la formation des salaires. On a vu des détricotages plus ou moins aboutis des systèmes de protection sociale. On a vu un affaiblissement quand même assez structurel, assez marqué des services publics de base. Tout ça crée un contexte dans lequel il est extrêmement délicat de mettre en place des instruments qui peuvent avoir pour effet de faire payer le prix de la décarbonation de l'économie aux revenus les plus modestes dans notre société. Je veux dire par là que le vase de la colère sociale qu'on a vu déborder ces dernières semaines en France et en Belgique, il est certainement rempli avec des gouttes qui ont à voir avec la stagnation des salaires, avec la baisse des allocations sociales, etc. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est effectivement vraisemblablement une goutte qui est liée à la fiscalité sur les carburants. Et donc, par conséquent, si dans un contexte de mécontentement social généralisé par rapport au pouvoir d'achat, etc., on vient avec des instruments qui n'ont pas été pensés dans leur dimension sociale, eh bien, on va au-devant de protestations sociales massives. Bref, ce risque de se retrouver face à une société extrêmement divisée entre ceux qui, d'un côté, peuvent espérer raisonnablement bénéficier d'un nombre d'opportunités significatives du fait de la décarbonation, et de l'autre, ceux et celles qui vivent de facto la transition vers une économie bas carbone comme une menace, comme quelque chose d'attentatoire à leur bien-être. Et ce n'est pas du tout une question de conviction. Je ne pense pas du tout que les classes populaires seraient massivement contre les politiques climatiques. La vraie question, c'est comment on opérationnalise cette ambition-là et comment sont ventilés les coûts et les bénéfices de la lutte contre les changements climatiques.
Benjamin Denis, quand on se promène dans les couloirs de la COP, là, on voit par exemple des gros panneaux d'industrie charbonnière polonaise. On voit qu'il y a des entreprises qui sont dans cette économie carbonée, qui sont ici, au cœur même de la COP. Donc quand vous dites il faut que les politiques prennent des décisions, on se demande où est le vrai pouvoir finalement. Est-ce que les politiques aujourd'hui ont le pouvoir d'influencer cette décarbonation de l'économie ?
Je pense qu'il y a quand même encore toute une série de leviers politiques extrêmement puissants, extrêmement importants, qui sont aux mains des autorités publiques. Les décisions qui sont prises en termes d'aménagement du territoire, en termes d'infrastructures, elles sont quand même prises par les autorités publiques. Alors oui, il peut y avoir du lobbying, des tentatives d'influence, etc. Mais ce sont quand même bien des élus qui, in fine, sont responsables de ces décisions.
Et quand on voit qui ne paye pas la taxe carbone, par exemple, que ce soit le transport maritime, que ce soit le transport aérien, que ce soit parfois des entreprises qui payent leur impôt ailleurs, qui font de l'évasion fiscale et qui sont justement au cœur de ces économies carbonées et les États ne font rien.
Mais précisément la question fiscale, voilà, précisément un instrument qui reste dans une très très large mesure complètement dans les mains des autorités publiques. Les gouvernements ont encore le pouvoir de construire les instruments fiscaux de manière autonome. Après, il y a, je pense, un débat qu'il est essentiel d'ouvrir, c'est sur le type de modèle économique que l'on veut. Pour moi, il est absolument évident que si on ne questionne pas le modèle économique austéritaire, néolibéral, qui oriente les grandes décisions économiques depuis plusieurs décennies, on n'arrivera pas à décarboner l'économie. Parce que ce système organise de manière structurelle une compétition entre les territoires, entre les peuples, entre les autorités publiques, pour capter les investissements. La conséquence structurelle de ce jeu-là, c'est la, j'allais dire, the race to the bottom, mais on m'a demandé de ne pas faire des anglicismes, c'est la course vers le bas, c'est la dérégulation, c'est la course au moins 10 ans. Et ce modèle-là ne peut pas nous amener au niveau d'ambition politique dont on a besoin pour décarboner l'économie d'une manière qui soit socialement équitable en quelques décennies. Et oui, donc là, soyons honnêtes, il y a un chantier politique fondamentale qui doit être ouvert, avec des questions importantes qui doivent être posées. Ces questions sont difficiles pour les autorités politiques, pour les partenaires sociaux, pour les organisations syndicales. C'est la question de la croissance du PIB, c'est la question du commerce international, c'est la question de la société de consommation. Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes et il est urgent de les aborder.
10 jours avant l'ouverture de la COP, le gouvernement polonais a annoncé que la part du charbon pourrait passer de 80% à 60% de son mix énergétique d'ici 2030, et même moins avec la mise en route hypothétique à partir de 2033 de 6 centrales nucléaires. Pourtant, cela pourrait aller beaucoup plus vite selon Oliver Sartor. Il est chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales.
Il y a 2 ans, on a commencé à travailler avec des équipes de recherche très réputé dans 6 pays avec énormément de charbon dans le mix énergétique, notamment la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Pologne et l'Allemagne. Et l'objectif de ce projet, c'était d'explorer des chemins vers une économie qui est cohérente avec les objectifs de l'accord de Paris et de voir ensuite ce qui pourrait être fait sur le charbon pour respecter cette trajectoire.
Alors c'est évidemment très intéressant ici, ouais, puisque nous sommes pour la COP24 en Silésie, au cœur d'une région charbonnière de l'Europe. Alors est-ce que, donc vous avez travaillé pour savoir quels sont les scénarios possibles pour ces différents pays pour sortir du charbon d'ici 2050. Est-ce que la Silésie ici, qui dépend donc étroitement des mines de charbon pour son économie, peut sortir du charbon d'ici 2050?
La réponse de notre analyse est effectivement oui. Déjà parce que d'une part, beaucoup des salariés qui travaillent dans le secteur ne seront plus à l'âge d'être employés en 2050. D'autre part, pour les mines eux-mêmes qui seront épuisées et qui vont devenir de moins en moins rentables à terme. Et aussi pour les centrales, parce qu'une centrale à charbon, souvent, elle a une vie d'à peu près 40 ans et il y a déjà un certain nombre qui sont assez vieux.
Donc petit à petit, le charbon va se tarir, on peut dire, cette économie ici en Silésie, mais ça va avoir des conséquences sociales. On parle de transition juste. Est-ce que les personnes vont pouvoir continuer à vivre décemment, même s'il n'y a plus cette économie?
Juste le fait que c'est possible ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact pour les gens, parce que ça a besoin d'être géré. Parce que le risque, sinon, en fait, c'est que d'autres facteurs économiques ou des régulations qui sont mises en place ou des taxes carbone, etc., peuvent avoir des effets très sévères s'ils ne sont pas accompagnés dans le temps. L'atout, par contre, qu'il y a la région de la Silésie, c'est qu'au contraire d'un certain nombre d'autres régions qui existent dans le monde, la Silésie est une économie qui est en croissance. Donc malgré le fait qu'ils ont 80 000 personnes dans le charbon, ils ont une économie beaucoup plus vaste aussi, qui commence à développer les automobiles qui sont vendus partout en Europe et à l'international. Et ça veut dire qu'il y a quasiment zéro chômage en fait, ce qui n'est souvent pas l'opportunité qu'ont beaucoup de régions.
Donc en fait, les personnes qui travaillent dans les mines de charbon ici en Pologne vont pouvoir éventuellement se redéployer moyennant une formation dans d'autres secteurs.
Oui, c'est vrai en partie. Après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne peut pas imaginer que toute la masse salariale consiste des personnes homogènes. En fait, il y a des différents groupes qui ont des caractéristiques très différentes et qui méritent des solutions un peu adaptées à chacun. Donc, par exemple, beaucoup des mineurs en Pologne font leur retraite à peu près 52 ans. Ça veut dire que d'ici 10-15 ans, il y a à peu près plus que la moitié des salariés dans la région qui probablement vont atteindre l'âge de la retraite déjà. Après, pour ceux qui sont plus jeunes, l'objectif est ensuite de juste éviter de les remplacer par les nouveaux jeunes qui sortent en fait des universités pour qu'on ne recrée pas le même problème pour la suite. Et puis ensuite, il y a certains qui ont un bon profil pour faire notre projet professionnel. En fait, parfois dans les centrales, on a des ingénieurs qui ont un bon niveau de formation, qui leurs compétences sont facilement adaptées à beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Et puis, on a un certain nombre qui sont parfois plus compliqués parce qu'ils peuvent être entre l'âge d'à peu près 25 et 40 ans peut-être, qui ont besoin de trouver des postes qui sont adaptés à leurs compétences. Et donc là, il faut trouver des solutions beaucoup plus nuancées.
En fait, la conclusion, ouais. C'est qu'il faut anticiper.
Exactement. Ça, c'est effectivement une des principes clés de la transition juste. C'est que si on anticipe, on peut faire énormément de choses pour accompagner la transition et pour éviter de faire les erreurs du passé qu'on a vues en Angleterre, par exemple, dans les années 80, ou qu'on a vues même en France, dans le nord de la France, dans un certain mesure.
Vous travaillez sur 6 pays. Vous dites donc la Pologne, a priori, s'ils anticipent bien, ils vont pouvoir s'en sortir. Parmi les autres pays sur lesquels vous travaillez, pour lequel de ces pays, ça sera le plus difficile ?
Probablement pour l'instant, le plus compliqué, je dirais, c'est la Chine. Simplement à cause de la nombre de personnes qui sont employées dans certaines régions. Il y a une concentration extrêmement forte qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, on parle beaucoup de la transition, mais au final, on parle quand même d'à peu près 30 000 salariés au total. En Chine, par contre, on parle parfois de 3-4 millions de personnes et parfois très, très concentrées dans certaines régions. Où leur avantage compétitif économique était construit sur le charbon et les secteurs liés au charbon. Donc pour certaines régions de la Chine, ça serait difficile. Oui.
Mais globalement, le résultat de vos recherches, c'est que d'ici 2050, oui. Si c'est bien anticipé, on peut faire une transition juste dans ces 6 pays.
Oui, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il est possible aujourd'hui de remplacer le charbon. On a beaucoup d'alternatives qui se développent. Et non seulement qui se développent technologiquement, mais qui commencent à être aussi compétitives que le charbon. L'autre élément, je pense, c'est que, comme j'ai dit, avec la transition juste, on voit déjà des exemples, en fait, des pays qui réussissent des parties de cette transition. Donc, on voit que c'est possible. Récemment, l'Espagne, en fait, avec le nouveau gouvernement, vient de signer un accord avec les syndicats pour la fermeture de 4 mines qui existent en Espagne. Et ça a été très fortement contesté depuis longtemps, la fermeture de ces mines en Espagne. Mais en prenant la bonne approche, en commençant par le dialogue et en traitant des problèmes, en fait, des différentes questions systématiquement, maintenant, la plupart des salariés, ils sont contents avec le résultat. Donc, on voit que c'est possible.
L'avantage d'être dans une conférence internationale, c'est que lorsqu'on vous parle d'un pays, vous pouvez aller directement à la source. 2-3 coups de fil et quelques centaines de mètres plus loin, nous avons rendez-vous avec Teresa Ribera. Elle est la ministre de la Transition écologique de l'Espagne depuis 5 mois. Elle nous explique comment son pays est en train de s'émanciper des énergies fossiles sans que les Espagnols descendent en masse dans les rues.
Ce qu'on veut faire, c'est d'arriver en 70-75% des renouvelables à l'année 2030, sans charbon, sans faire monter les gaz feraient les rôles de backup. Et on sait bien aussi que pour l'année 2030, on aurait commencé à organiser la sortie d'une bonne partie des nucléaires. On pense que ça pourra être fait seulement si on investit beaucoup sur l'efficacité énergétique et si on organise un système qui nous permet de bien gérer l'impact d'une quantité de renouvelables si fantastique d'ici à 10 ans.
Donc la première chose, c'est l'efficacité énergétique. Ça passe par quoi ? Par l'isolation des bâtiments ?
C'est vrai que si la première chose où on doit s'investir, c'est sur l'efficacité énergétique, la deuxième serait sur la mobilité. Et la mobilité veut dire travailler sur l'efficacité énergétique dans la mobilité, mais aussi dans une transformation qui nous permet de sortir de plus en plus d'une mobilité fossile et aller vers des mobilités sans émissions. Et ça, c'est une transformation très importante, pas seulement du modèle des voitures, mais aussi des modèles des territoires, des services publics et d'alternatives qui seront sans doute différentes de ce qu'on imagine aujourd'hui.
Ça sous-entend qu'il va falloir repenser les villes ?
Je crois qu'on est déjà en train de repenser les villes. On voit ce qui se passe dans les grandes villes, qui sont sans doute les points d'entrée les plus importants pour la transformation de la mobilité. Ce n'est pas les mêmes types de problèmes qu'on doit aborder dans des grandes villes et des zones métropolitaines qui est dans des petits villages. Des petits villages, bien sûr, qu'on doit compter sur des systèmes qui rassemblent beaucoup plus au modèle actuel. Mais dans les grandes villes, on peut essayer beaucoup de choses parce qu'on peut combiner des transports publics avec une électrification et de la mobilité privée.
Donc 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, ça veut dire une grosse modification du système énergétique espagnol. Comment est-ce que, par exemple, vous allez sortir du charbon, les 20% de charbon dont vous dépendez aujourd'hui, d'ici 2030 ?
parce qu'on pense que c'est impossible de gérer une transformation d'une taille similaire à celle qu'on doit faire sans avoir un dialogue social honnête avec les travailleurs, avec les maires des villes qui sont affectées et avec les travailleurs et les voisins des villes qui ne travaillent pas dans des centrales mais qui gagnent leur vie par rapport à l'activité de la centrale. Il est important de prévoir les impacts distributionnels de toutes ces politiques et être très sérieux sur les politiques sociales et d'accompagnement. Sinon, ça ne va pas marcher, ça créerait un effet pervers.
Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement? Comment est-ce que vous faites justement pour qu'il y ait cet accompagnement social?
Alors, la première chose qu'on avait fait, c'était de travailler avec les syndicats minières et pour faciliter une sortie pour les travailleurs de la mine du charbon. Alors, ce qu'on a fait, c'est de signer un accord avec eux sur trois piliers. Faciliter la retraite pour ceux qui avaient l'âge et l'envie de prendre la retraite. Faciliter l'apprentissage, l'éducation laborale et la recolocation pour les travailleurs plus jeunes qui ont envie de garder les mêmes systèmes des droits et de retraite et des pensions, mais dans des domaines similaires. Par exemple, dans la restauration des terres qui avaient été des zones minières ou similaires. Et troisième chose, un investissement et sur les territoires qui doit impliquer les business, les firmes qui sortent d'une certaine activité mais qui restent dans les systèmes. Dans les cas des grandes compagnies électriques qui vont fermer leurs centrales à charbon, mais bien sûr seront encore dans les systèmes énergétiques de l'Espagne. Il y aura des choses qui vont marcher, il y aura des choses qui ne vont pas marcher, mais qui pourront faire une identification d'autres opportunités.
Comment est-ce que vous fixez ces objectifs de façon définitive pour que le prochain gouvernement ou la prochaine législature ne détricote pas tout ce que vous avez fait?
La seule manière de fixer une volonté collective qui soutient des objectifs, c'est que les gens comprennent que c'est une chose qui leur va bien, qui fait du bien au pays. On va sortir nos chiffres pour 2030 et 2050 au débat public d'ici à très peu de semaines. Et à partir de ce moment-là, ça fera objet d'un débat public. Et je pense qu'il est très important qu'on est tous d'accord sur les chiffres, parce que la transition doit avoir une référence concrète qui est partagée par tout le monde et comment on va organiser les choses pour faciliter qu'ils deviennent une réalité.
Merci beaucoup.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Jest zimno na ulicach, a demony tańczą samba. Złe słowo o rodzicach to przestanie być zabawne. Na moim brzuchu blizna, bo kiedyś prawie umarłem. Ja jestem w Wadowicach, modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste. Piach też śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik. Piach też śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Katowice dans le sud de la Pologne à l'occasion de la 24e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP24 qui se termine demain. Avec la crise des gilets jaunes en France et le choix de la présidence polonaise de cette conférence de mettre la notion de transition juste au cœur des débats, le fait que la transformation écologique de l'économie mondiale ne se fera pas sur le dos des plus précaires alimente les conversations dans les couloirs interminables. Encore faut-il que les décideurs politiques prennent ce sujet réellement au sérieux, comme le souligne Nel Makarov, chargée des politiques européennes au sein du réseau Action Climat.
Vous savez, la transition juste, c'est un concept qui est assez flou et malheureusement, certains l'interprètent de façon très différente d'une transition écologique. Par exemple, le président polonais, Andrzej Duda, quand il est arrivé pour ouvrir la COP officiellement, il a dit, en citant d'ailleurs la crise des Gilets jaunes en France, que la transition ne devait pas se faire à l'encontre des peuples. Par cela, il ne parlait pas de renforcer la transition juste. Il voulait surtout dire qu'il ne fallait pas de transition du tout et qu'il fallait maintenir le charbon comme une énergie d'avenir pour le climat. Donc voilà, ce genre de discours vont à l'inverse de ce qu'il faut faire en termes d'action climatique et si on veut vraiment respecter l'accord de Paris.
Alors on entendait tout à l'heure un chercheur de l'IDRI qui nous expliquait que la Silésie, donc la région où nous sommes là à Katowice, peut tout à fait sortir du charbon d'ici une génération et qu'il y a une volonté d'ailleurs ici de la population locale, ne serait-ce que pour lutter contre la pollution, de sortir du charbon.
La pollution de l'air, c'est un fléau qui est dû à la combustion du charbon. Et la Silésie est une des régions les plus polluées en Europe. Katowice est une des villes les plus polluées en Europe. Et c'est un désastre sanitaire. Et c'est vrai que la population à Katowice est très sensibilisée à la question. D'ailleurs, elle se mobilise. Vous avez le plus grand laboratoire d'énergie renouvelable de Pologne qui est basé à Katowice, qui emploie 1500 personnes. Donc on voit qu'il y a une dynamique. On voit que les entreprises à Katowice sont prêtes à investir dans les renouvelables. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un vrai décalage entre ce qui se fait au niveau de la région, au niveau de la population, et ce qui se fait au niveau du gouvernement polonais. Malheureusement, le gouvernement polonais reste addict au charbon. Il investit des subventions publiques pour construire de nouvelles centrales à charbon, alors même qu'on sait que le charbon est un des principaux responsables du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre en Europe.
Il y a une centrale à charbon qui va être construite prochainement, pas très loin d'ici.
Tout à fait. C'est une centrale géante à charbon qui s'appelle Ostrołęka C, qui est en train d'être construite. Le gouvernement polonais a lancé la construction une semaine après la publication du rapport du GIEC sur la limitation du changement climatique à 1,5 degré. Donc vous voyez un peu la provocation que le gouvernement polonais peut avoir. Et cette centrale à charbon, elle est massivement subventionnée par de l'argent public. Et en ce moment même, au niveau européen, les États sont en train de réfléchir à comment couper les subventions aux énergies fossiles. Et malheureusement, il y a des États, comme la Pologne et comme d'autres, qui s'opposent aujourd'hui au fait qu'on puisse couper l'argent public, les subventions publiques pour les énergies fossiles, et en particulier le charbon.
Il y a donc en Pologne, comme dans beaucoup de pays dans le monde, un décalage entre la politique nationale, la politique régionale et ce que veulent les citoyens.
Ça, c'est tout à fait clair. Il y a eu des marches pour le climat partout en Europe qui rassemblent de plus en plus de personnes. Les sondages d'opinion montrent que les partis écologistes sont en train de monter pour les élections, notamment européennes. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté de la part des citoyens européens de changement et d'une transition.
Alors le problème, c'est que dans les conventions climat, comme ici à Katowice, ce sont les États qui discutent entre eux. Il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de représentants, il y a des représentants des villes, des régions, etc. Mais ils n'ont pas accès aux négociations. Donc finalement, ces négociations qui piétinent ici, ce n'est pas très étonnant.
Il y a quand même les ONG, les organisations non gouvernementales qui sont là et qui sont là pour rappeler aux États leurs obligations et leur rappeler aux États aussi que la science, notamment le rapport du GIEC, est présent et montre l'urgence climatique.
Oui, heureusement qu'elles sont là, mais dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose. Cette COP est quand même une catastrophe diplomatique sur le climat. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'avancée.
Il faut espérer que d'ici la fin de la COP, on puisse terminer les règles d'application de l'accord de Paris, qui était quelque chose d'essentiel, mais aussi de relever l'ambition climatique. Et là, sur ce point-là, en effet, pour le moment, on a des signaux qui sont très négatifs. Il y a certains États européens qui, aujourd'hui, poussent dans la bonne direction. Si vous regardez l'Espagne de Pedro Sanchez, si vous regardez la Suède, le Portugal, la France aussi pousse pour plus d'ambition climatique en Europe.
Mais la France a vu ses émissions augmenter.
Ses émissions ont augmenté, et ça, c'est très observé et mal perçu par ses voisins européens, parce qu'ils ont l'impression qu'elle ne fait pas les efforts chez elle. Et de ce point de vue-là, il faut que le président de la République et le gouvernement français puissent apporter de la crédibilité à ces ambitions au niveau national et pour être crédible sur la scène européenne. Mais il y a des gouvernements qui aujourd'hui poussent dans la bonne direction. Mais c'est vrai que beaucoup bloquent les négociations et il faut à tout prix qu'on trouve un compromis qui aille vers le haut lors de négociations. Elles ne sont pas inutiles, ces négociations. Elles sont au contraire cruciales si on veut mettre en œuvre l'accord de Paris.
Mais donc pour vous, ce genre de conférence, même si ça n'avance pas, même si les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial continuent à augmenter malgré l'accord de Paris, pour vous, cette conférence est encore utile et sert à quelque chose malgré la déconnexion des États par rapport aux ambitions, par exemple, de leurs citoyens.
Cette conférence est utile si elle aboutit à un vrai résultat. Et j'espère qu'elle le fera, parce qu'il s'agit ici de s'assurer que les États s'engagent sur des objectifs plus ambitieux et qu'ils les respectent après.
C'est vrai que c'est difficile de croire que ces conférences des Nations Unies sur le climat ont une réelle utilité et que c'est à partir de là que sera sauvée l'humanité. Même les scientifiques en doutent. Tenez, Jean Jouzel, climatologue, glaciologue, membre de l'Académie des sciences et vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pendant 13 ans. Alors Jean, combien de COP à votre actif ?
Depuis 2001, c'est la 18e depuis Marrakech. Donc 18 COP avec certaines décevantes comme Copenhague, d'autres où l'espoir a repris comme Paris. Mais voilà, ici à Katowice, eh bien, normalement, ce devait être la conférence climat la plus importante après celle de Paris, 3 ans après, avec des rendez-vous en particulier pour la communauté scientifique, puisque dans l'accord de Paris, la convention climat invitait explicitement la communauté scientifique à produire un rapport sur un climat dont le réchauffement serait limité à 1,5 degré. Donc ce rapport a été rédigé en temps et en heure par les scientifiques. Ils l'ont présenté en octobre dernier. Il a été adopté à l'unanimité. Et en fait, il est au cœur des discussions de cette COP, alors qu'il n'aurait pas dû. Pourquoi est-il au cœur des discussions ? Eh bien, parce que 4 pays dont les représentants l'avaient adopté en Corée il y a 2 mois, ont refusé de le soutenir à Katowice, les États-Unis, la Russie, le Koweït et l'Arabie Saoudite. C'est vrai que pour notre communauté, c'est un peu décevant, énervant, et j'espère que cette conférence climat n'est pas terminée. J'espère clairement qu'il va être cité de façon très explicite, y compris ses objectifs principaux, neutralité carbone à horizon 2050, par exemple, diviser par 2 les émissions entre 2020 et 2030 si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5. J'espère qu'il va être cité dans la déclaration finale de cette conférence de Katowice.
Avant d'ouvrir nos micros, vous me disiez, en fait, en 30 ans, il ne s'est rien passé. Ça fait 30 ans qu'on dit la même chose.
On peut dire qu'il ne s'est rien passé en 30 ans, Anne-Cécile, puisque quand on regarde le premier rapport du GIEC, d'une certaine façon, je dirais que tout était dit. Le premier rapport du GIEC nous disait que si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, bien nous irions vers un réchauffement de 3 degrés au milieu du 21e siècle, un doublement des quantités de gaz carbonique. Et en gros, ce sont les chiffres que nous donnons aujourd'hui. Bien sûr, la science a progressé. Je ne veux pas dire que les scientifiques n'ont rien fait en 30 ans, ce n'est pas cela. Mais en gros, l'essence, le message était vraiment délivré lors du premier rapport du GIEC.
Non, mais ça, c'est pour le rapport des scientifiques. La science a progressé, mais la décision politique pour lutter contre les changements climatiques, elle, stagne.
Ce qui est décevant, c'est que quand on regarde nous sommes à la 24e conférence climat, et il est assez intéressant de constater que les textes sont tout à fait, en ligne avec le constat des scientifiques. C'était le cas pour l'accord de Paris. Là où ça ne va pas, c'est que les engagements pris actuellement ne nous font faire qu'un tiers du chemin en termes de réduction des gaz à effet de serre. Et en fait, on constate que pour un réchauffement à 1,5 degré, c'est 1/5 du chemin qui est fait. Et encore, si tous les pays tiennent leurs engagements, et nous n'en sommes pas là. Mais où est l'ambition ? On en discute à peine, on commence à en discuter aujourd'hui, mais on craint qu'il n'y ait pas vraiment de décision de prise à la fin de cette COP24, ni la prochaine, ni la suivante, alors que relever l'ambition, c'est pour maintenant, c'est pour la période 2020-2030. L'an dernier, nous disions que nous avons 3 ans pour agir, donc 2 ans pour agir cette année. Ça veut dire quoi ? En fait, on a 2 ans, nous semble-t-il, et ça, c'est ce qu'avait avancé le GIEC dès en 2007, d'être dans le 4e rapport. C'est-à-dire que si on voulait avoir des chances de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, il fallait vraiment commencer les émissions devaient commencer à redescendre à partir de 2020. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, que les émissions en 2017 ont été plus importantes que celles de 2016, et de même en 2018, elles sont également plus importantes. Plus on parle du réchauffement climatique, plus les émissions continuent à augmenter. On a vraiment 35-40% d'émissions en trop à horizon 2030, si on veut garder cet objectif de 2 degrés, et nous sommes partis réellement vers plus un réchauffement de 3 degrés, au moins.
Est-ce que nous nous préparons à un monde compliqué ?
Oui, nous nous préparons à un monde compliqué. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont plus les générations futures. Pour ce qui me concerne, j'ai 7 petits-enfants qui ont entre 5 et 17 ans, ils seront là, je pense, dans la deuxième partie de ce siècle. Donc on ne parle plus de générations futures, et Ce que nous dit le rapport 2 degrés, finalement, c'est que déjà, avec un réchauffement d'un degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire 2 degrés par rapport au pré-industriel, il y a des conséquences extrêmement visibles et, je dirais, dommageables en termes d'événements climatiques extrêmes, en termes de perte de biodiversité, en termes d'élévation supplémentaire du niveau de la mer, en termes de sécurité alimentaire. On voit bien que ce sont les quatre points principaux. Ce que veut dire en creux ce rapport 2 degrés ou 1,5 degré, eh bien, c'est que plus on s'éloigne de 2 degrés vers le haut, plus on risque des difficultés, disons, pour s'adapter au réchauffement climatique. Nous ne sommes pas en Europe de l'Ouest, parmi les régions les plus vulnérables, loin de là. Mais il y a aussi des conséquences dans nos régions qui vont devenir visibles. Je cite pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, deux chiffres qui viennent d'articles récents. Actuellement, sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, il y a à peu près 5% des Européens qui, chaque année, font face à un événement climatique extrême, inondation, sécheresse ou canicule. Et en fait, dans la deuxième partie de ce siècle, dans le cas d'un réchauffement à 3 degrés, eh bien, nous irions plutôt, 2 Européens sur 3 feraient face à un événement climatique extrême. En termes de nombre de victimes, évidemment, 2003 nous a laissé, ils ont un certain goût amer, 75 000 décès supplémentaires au niveau de l'Europe, 15 000 en France.
Eh bien, une grosse canicule.
Actuellement, en moyenne, c'est 3 000 victimes d'événements climatiques en Europe. Et ça, ce chiffre pourrait être multiplié par 50 au niveau européen. Certaines régions de la planète deviendraient carrément invivables. Par exemple, parce qu'il y ferait trop chaud, trop humide, en gros, pour avoir une activité à l'extérieur pendant l'été. Donc, on voit bien que c'est un monde qui n'est absolument pas adapté au développement de civilisation, avec ce risque, effectivement, au contraire, que si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, si on va dans cette zone, je dirais, dangereuse, au-delà de 2 degrés, eh bien, on a le sentiment qu'un développement harmonieux de civilisation sera vraiment très difficile. Et c'est ça un peu le risque, enfin, risque d'accroissement de conflits, le risque d'accroissement des inégalités est bien là. Et c'est un monde qu'il faut tout faire pour éviter. Pour moi, c'est très clair.
Merci Jean.
Merci Anne-Cécile.
Aujourd'hui, c'est le 6e jour de la COP et c'est aussi le jour de la manif mondiale pour le climat partout dans le monde, dans plus de 16 pays. Ici à Katowice, l'enjeu d'une transition juste est énorme parce que la ville est totalement dépendante de l'industrie du charbon. Elle emploie la majorité des gens. Et l'une des conséquences, c'est que Katowice est l'une des villes les plus polluées de Pologne. Vivre ici équivaut à fumer 2500 cigarettes par an, 7 par jour. Alors, pour toi public, voilà ce que j'en suis réduit à faire. Certes, c'est complètement abusé la situation ici, mais c'est un peu simple de simplement dire à ces pays d'arrêter de polluer et d'arrêter d'utiliser une énergie dont ils sont 100% dépendants. Surtout quand t'es un de ces pays qui a largement profité de ce système et qui l'a créé finalement. Hein. Sortir de cette dépendance, ça s'appelle la transition. Mais pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est la transition juste.
Bonjour Vincent Verza.
Bonjour.
Bonjour Victor Vauquois.
Bonjour.
Alors, la vidéo qu'on vient d'entendre, la partager, c'est sympa. C'est vous qui l'avez faite ici durant la COP24 à Katowice. Vous travaillez tous les deux sur ces vidéos. Vous en produisez 5 durant la COP. Ce sont donc les YouTubeurs qui rentrent à la COP. C'est une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de regarder ces événements hyper institutionnels. Mais Vincent, partager, c'est sympa, ce n'est pas que pendant les COP.
Heureusement que non, parce que sinon ce serait dur de garder la patate. En l'occurrence, non, on fait une vidéo toutes les deux semaines qui donne à chaque fois l'envie et les moyens de passer à l'action pour construire un monde juste et durable pour tous.
Alors finalement, vous êtes d'accord avec la présidence polonaise, il faut une transition juste, c'est ce dont vous parlez dans cette vidéo ?
Oui, et en même temps, on tape un peu du poing, hein, parce qu'on trouve que le thème est là, mais la volonté politique n'est pas là du tout. Et on réalise aussi que les politiques ici mettent souvent en avant des blocages qui n'existent pas réellement. En tournant cette vidéo sur le charbon en Pologne et en faisant aussi le parallèle avec les Gilets jaunes, on a appris qu'énormément de mineurs ici en Pologne souhaitent changer de travail parce que les conditions de travail sont extrêmement dures et ils aimeraient améliorer leurs conditions de vie. En l'occurrence, ils seraient totalement volontaires pour vivre une transition, pour passer au renouvelable, pour avoir un fonctionnement différent. Mais c'est la volonté politique derrière qui manque, quoi.
Victor, ou quoi ?
Ben, non seulement les mineurs, mais j'ai envie de dire les corps intermédiaires qui les représentent. Les syndicats sont très mobilisés sur ces questions et ne sont pas opposés, en tout cas ni en Pologne ni dans le monde. Les confédérations européennes et mondiales, en général, ont des positionnements assez intéressants et pas du tout caricaturaux. En tout cas, ils ne sont pas du tout contre une transition vers d'autres emplois. Ils défendent plus plutôt à la fois des salaires, des conditions de travail, mais aussi de formation qui permettent à ces gens de passer tranquillement vers d'autres types d'emplois. Donc, en fait, tout le monde est plutôt pour, sauf actuellement une bonne partie des États.
Alors, ce qui est compliqué dans cette période de transition que nous traversons, c'est que, par exemple, quand on arrive ici, à Katowice, à la COP24, on voit des sponsors. Et parmi les sponsors, par exemple, vous l'avez montré dans vos vidéos, il y a des mineurs. Enfin, il y a des gros du charbon en Pologne.
Des multinationales du charbon, des multinationales du pétrole, du gaz, ils sont absolument tous là. Et en l'occurrence, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a même un étalage du charbon, une mise en avant de cette énergie-là. Le problème que ça pose, c'est que ces multinationales sont en capacité de dévoyer l'avancement de la conférence, de la COP, de manière à éviter une remise en question de leur modèle économique. Et on le voit, pas plus tard qu'hier, il y avait la délégation américaine qui a fait un événement et qui disait « Non, il n'y a aucune raison de sortir des énergies fossiles parce que ce ne serait pas réaliste. » Et c'est là tout l'enjeu. Nous, on essaie avec nos vidéos d'amener un réaliste qui ait une prise de distance par rapport à cette COP, réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre survie sur cette planète et que le réalisme a changé de camp aujourd'hui. Ce n'est pas réaliste de penser qu'on peut continuer comme avant.
Vous qui suivez ces questions depuis 2012, en tout cas d'un point de vue institutionnel, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous, quand vous vous promenez dans les couloirs, vous discutez avec les gens, ce processus vous donne confiance?
Absolument pas. Et c'est d'ailleurs le côté fascinant avec les vidéos qu'on fait, c'est qu'on est maintenant reconnu dans les COP et les gens viennent nous parler, nous disent où elles en sont. Donc par exemple, on apprend que un ensemble de points de négociation n'ont pas du tout avancé et on leur demande « est-ce que vous pouvez nous dire ça au micro ?»« Ah non, 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 officiellement ça avance, hein, y a pas de souci. » Mais on apprend qu'en fait l'objectif va certainement être décalé de 10 ans. Évidemment, on n'a pas 10 ans à perdre. Donc non, ça n'avance pas du tout. C'est un des trucs qu'il faut qu'on martèle. Les États ne sont pas en disposition, surtout pas dans ce modèle-là de conférence, de prendre les engagements dont il y a besoin. Donc il faut aussi accepter cet état de fait et prendre des décisions sur cette base-là.
Et donc ça pose bien, Victor Vauquois, le fait qu'il y a un gros décalage qui s'accroît d'ailleurs entre les États et les citoyens qui, eux, ont envie d'agir.
Complètement. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de mouvements de la société civile qui émergent un peu partout dans le monde. Je pense aux Australiens et aux grèves des enfants. Je pense à Extinction Rebellion au Royaume-Uni et énormément des centaines de personnes qui sont passées à la désobéissance civile pour le climat, qui sont prêtes à se faire arrêter, qui se sont engagées là-dessus. Je pense évidemment aux marches pour le climat qui ont rassemblé encore 175 000 personnes en France la semaine dernière. C'est du jamais vu sur les questions écolo. Et avec un message qui n'est pas en plus un message de « c'est important le climat, il faut agir », c'est un message vraiment radical. Les gens parlent vraiment de changement de système, interpellent leur politique, dénoncent le fait que ça n'aille pas, et d'ailleurs font le lien avec la transition juste. C'est marquant de voir aussi que toutes ces marches pour le climat en France ont adopté ce message de « c'est le même combat entre le combat contre les fins de mois et le combat contre la fin du monde ». Et on aurait pu facilement voir une opposition entre les Gilets jaunes et eux. Moi, c'était ma crainte et ça aurait pu arriver, c'est pas du tout le cas. Et à la fois les Gilets jaunes et à la fois nous, les mouvements climatiques, on arrive à faire le pont et on arrive à s'entendre et à penser ça collectivement. L'écologie et le social ne sont pas du tout contradictoires, au contraire, on l'a largement prouvé samedi.
Mais en même temps, l'engagement citoyen, c'est évidemment plus un, mais si on veut changer d'échelle, il y a besoin de prise en main politique du sujet.
Complètement. Malheureusement, on observe qu'il n'y aura pas de prise en main politique si on ne les force pas à prendre en main le sujet. C'est d'ailleurs de manière intéressante ce que nous montrent les Gilets jaunes. Ils n'ont pas forcément de revendications claires. Par contre, ils ont clairement mis la pression et le gouvernement est forcé de réagir. Malheureusement, le mouvement écolo n'a pas encore obtenu du président qu'il fasse une allocution solennelle à 20h à tous les Français sur un enjeu de l'écologie. C'est peut-être ça justement qu'il faut qu'on arrive à obtenir et donc qu'il faut qu'on revoie notre mode de mobilisation.
Donc, partager, c'est sympa. C'est toutes les deux semaines, une nouvelle vidéo.
Ouais, sur YouTube et sur Facebook. Allez vous abonner.
Merci à tous les deux.
Merci.
Et parmi les régions du monde les plus touchées, il y a le continent africain. Nous en parlerons demain avec nos invités, toujours à la COP24 en Pologne et toujours grâce à la réalisation de François Porcheron. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, donc, même planète, même heure.